السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بشفاء الإسلام، نغمسيون الله عز وجل. الله لو تريو كي نو بيرمي اجوردي يوم الجمعة en ce mois de juin, mois de Rajab de l'année 2012 de nous réunir dans la mosquée pour parler un peu de la religion, du dîn d'Allah Azza wa Jal, avant le début de cette salat al-Jum'a. Mes chers frères en islam, vous savez que parmi les objectifs de l'islam, c'est parfaire la relation entre le musulman et son créateur. Faire en sorte que le musulman devienne un bon abid lillah, un bon adorateur d'Allah Azza wa Jal, cela par le biais des actes d'adoration, ce qu'on appelle le culte, le uboudiyya, la salat, la zakat, le hajj, la lecture du Qur'an, le dhikrullah. Un des objectifs également de notre dîn, c'est de parfaire les relations entre les gens, de parfaire les relations au sein de la société, entre les personnes d'une même famille, au sein d'un couple, entre un musulman et ses voisins, entre les personnes qui habitent dans une même société, sans distinction d'origine, d'ethnie, de race ou de conviction. C'est ce qu'on appelle les akhlaq et les mu'amala. Maintenant, l'exemple qui concrétise cette réussite, l'exemple qui concrétise la réussite de ces deux objectifs simultanément, c'est la société que notre prophète alayhi salatu wassalam a construite à Madina Munawwara. Lorsque notre prophète alayhi salatu wassalam arrive à Madina, notre prophète alayhi salatu wassalam va instaurer des fondations qui sont nouvelles. Des fondations qui sont fraîchement révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bases et les fondations de cette nouvelle société, ce sera le respect de l'autre, le bon comportement, l'entraide, la solidarité, la fraternité. On a vu ça par le biais du pacte de fraternité entre émigrés et ceux qui arrivaient, entre muhajirin et ansar, gens de la Mecque et gens de Médine. On a vu ça dans les relations de paix, les pactes de non-agression entre musulmans et trois tribus juives. Également, la prohibition de tout péché intérieur aussi. La prohibition de tous les péchés qui sont dans les cœurs. Pour garantir une muhabba, une entente réelle dans la communauté, dans la umma, une entente, on a dit, réelle, et pas une entente d'apparence. C'est pour ça que notre prophète, alayhi salatu wassalam, a décrété haram par l'ordre d'Allah le riba, la médisance, le buhtan, la calomnie, le namima, le fait de colporter les fausses nouvelles, le hasad, la jalousie, le sou'ouvan, les mauvaises pensées, etc., etc. Toutes ces choses qui pourrissent les relations. Même si dans une famille, on a l'impression parfois que tout va bien, mais parfois il y a des choses qui sont intérieures, qui sont profondément ancrées dans les cœurs et qui rongent les cœurs. Et qui fait que lorsqu'on regarde notre cousin, notre beau-frère, notre ami, d'apparence tout va bien, mais en réalité, il y a une haine profonde, il y a un malaise qui nous oppose à cette personne. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a instauré les bases visibles, apparentes, et les bases internes, plus secrètes dans les cœurs des musulmans. Maintenant, à notre époque, ou alors n'importe quelle époque, c'est-à-dire après l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et de Madina. Pour instaurer, pour arriver à un résultat semblable, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'éduquer un adulte qui n'a pas eu ses convictions. C'est-à-dire une personne à l'âge adulte qui n'a pas eu un enseignement islamique, qui n'a pas su quelles sont les valeurs de notre religion, ben l'éduquer. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'éduquer un enfant dès son jeune âge. Lui inculquer les principes qu'on a dit et suivre cet enfant dans son éducation, dans son évolution, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. On a tous compris que parmi les deux possibilités, la deuxième est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, beaucoup plus maîtrisable. Il est plus simple d'éduquer un enfant et de suivre durant sa croissance, différentes étapes de son adolescence, de sa vie d'adulte, plutôt que d'éduquer une personne qui a eu des mauvaises habitudes et l'inculquer, changer complètement la nature de cette personne. Et si on travaille sur cette deuxième possibilité, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant, alors assurément, la première méthode ne sera plus nécessaire. Sauf pour quelqu'un qui se convertit à l'islam et qu'il faut l'apprendre maintenant quelles sont les bases des valeurs de notre religion. Alors il faut bien comprendre que pour former ce qu'on appelle entre guillemets un bon musulman au sein de la société, il y a un travail individuel à faire, un travail individuel à faire à différentes étapes de la vie, de l'évolution de ce musulman. Et quand on dit le musulman, c'est comme si on l'observe naître, grandir, atteindre l'âge adulte, évoluer. Il y a un travail à faire de la part des parents, on va voir, de la part des ulama, de la part de pas mal de personnes, sur chaque individu. Parce que si chaque individu devient un bon musulman, la société deviendra meilleure. Comme l'époque des sahaba, chaque sahaba avait des sifas, des qualités. Chaque sahaba avait fait le maximum pour enlever les péchés apparents et les péchés de leur cœur aussi. Ce qui fait que c'était une société, on ne dit pas idyllique, mais une société exemplaire à la limite de la perfection. La première étape, comme on a dit, c'est l'effort que chaque personne doit faire pendant l'étape de l'enfance. Et ça, c'est la responsabilité directe des parents, d'inculquer les valeurs qu'on a dit tout à l'heure en introduction, des valeurs, ces valeurs islamiques, mais qui sont avant tout des valeurs profondément humaines, des valeurs profondément humanistes. Inculquer ça à nos enfants. On va prendre un contre-exemple, on va un peu plus loin là dans le discours. Comprenons que si dès l'enfance, on a un enfant de 7 ans, 8 ans, on se focalise uniquement sur sa réussite scolaire. On se focalise uniquement sur les résultats qu'il va amener et on va le briefer au maximum pour qu'il arrive aux différentes étapes, le brevet, le bac, le DUG, la licence, la maîtrise, etc. Et qu'on a en aucun cas inculqué les valeurs de notre religion. Comprenez que cet enfant, quand il deviendra grand, il ne va pas découvrir ses valeurs par lui-même. Il est tellement plus facile de perdre des valeurs que de les acquérir. Alors si on ne les a pas données, c'est pas lui qui va les apprendre par lui-même. Et si on arrive à des cas extrêmes, je dis des cas extrêmes, mais j'aurais dû dire des cas de la vie courante, qu'un enfant, un adolescent, 15 ans, 16 ans, 17 ans, on va très loin déjà, on est gentil, il a touché sa première cigarette, fumé sa première chicha, il a touché son premier joint, il a bu son premier verre d'alcool, il a été pour la première fois en boîte de nuit à 19 ans lorsqu'il est majeur. Lorsque qu'on constate cette situation critique, alors là, il ne faut pas s'indigner. Il ne faut pas non plus s'attrister. Parce que si, dès l'enfance, je me suis focalisé sur la réussite scolaire, le succès de la dunya, sans parler de la relation entre mon enfant et Allah Azza wa Jal, c'est le résultat de mon tarbiyah. C'est le résultat direct de mon éducation. Et là, il faut juste remonter à la source du problème. Il ne faudra pas accuser le système, c'est la mosquée, c'est les discours, c'est la médersa, c'est l'ambiance, c'est tout ce qui est autour. Non, c'est la formation qui n'a pas été donnée à l'enfant dans la phase où il était réceptif, où il avait confiance en ses parents, où il acceptait les paroles de son papa et de sa maman. D'où l'importance, mes chers frères, d'instaurer une ambiance de din à la maison. Une ambiance de dîn, c'est quoi? Ce qu'on appelle un bi'a, une ambiance saine et religieuse. C'est quoi une ambiance saine et religieuse? Est-ce que c'est quand le papa rentre à la maison, qu'il s'en va au fenamas, chacun gagne un claque, motifie là pas mettre son châle, il a lié un claque, et par la répression, c'est pas ça l'ambiance religieuse. L'ambiance religieuse est basée sur trois paramètres essentiels. Le discours, ça tout le monde le fait, le ta'alim à la maison, c'est essentiel. Choisissez vos livres, quel que soit le livre, mais qu'il y ait un discours religieux régulier à la maison. Autrement, l'enfant, il revient de l'école, du collège, du lycée, de l'université, il a entendu toutes sortes de discours qui appellent vers la débauche, vers le fitna, vers la concrétisation des shahawat, des pulsions, des passions, la liberté sexuelle et tout ça. Si moi, papa, moi, maman, à la maison, je ne rétablis pas les discours, je ne donne pas le contre-exemple, je ne montre pas mes enfants qui était al-Nabi alayhi salatu wassalam, qui était les sahaba ridwanullahi alayhi majma'in, je ne donne pas à mes enfants le modèle à suivre. Comprenez que le contre-exemple qui viendra de l'autre côté, ce sera comme un tsunami qui aura un effet dévastateur. Et l'enfant, il est en train de se noyer à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, il se noie. Lorsqu'il est adolescent, il ne vous connaît plus. Votre discours n'a plus d'importance. C'est plus le moment d'aller voir votre enfant à 16 ans, dit mon enfant, Moulissab, la diamant, la vie, awaken tifi, côté lycée, ça ne sert plus à rien. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, dit qu'il y a trois étapes de 7 ans dans la vie de l'enfant. 0 à 7 ans, c'est l'amour, la muhabba. Être proche de ses enfants. Qui dit être proche, c'est donner du temps. Ça ne s'achète pas, le temps. Le temps, c'est quelque chose qu'on donne avec du cœur. Le temps, c'est lever le pied sur nos loisirs, lever le pied sur nos émissions de télé, lever le pied sur, je ne sais pas, ce qui nous aspire notre temps, et donner ce temps à ceux qui le méritent, à notre épouse et à nos enfants. Donc la première phase, c'est par le discours, les ta'alim et les conseils. La deuxième phase, c'est par l'écoute. dès l'enfance. Moi, papa, même si je ne suis pas psychologue, psychiatre ou autre chose, je dois être capable d'écouter mon fils, d'écouter ma fille. Je ne vais pas l'écouter quand il a un gros problème. C'est pas quand il a fait une tentative de suicide. C'est pas quand l'assistante sociale m'appelle et dit « Votre fille a fait une interruption volontaire de grossesse, elle a 14 ans. » C'est pas là que je vais dialoguer avec elle, non. C'est dès l'enfance, prendre l'habitude de m'asseoir régulièrement avec mes enfants et parler de la journée. Même si ça m'embête, même si je ne trouve pas un match, un plaisir, j'aimerais tellement regarder France-Angleterre, j'aimerais tellement regarder je ne sais quoi, mais je suis conscient et persuadé que cet enfant-là, je suis en train de le former dès l'âge de 6 ans. J'ai oublié ce que je disais tout à l'heure, Ali ibn Abi Talib, de 7 ans à 14 ans, c'est là que l'éducation commence. Et on lisait, subhanallah, un livre d'un psychologue récemment, il disait que entre 7 ans et 14 ans, c'est l'âge où l'enfant est le plus réceptif. C'est l'âge où l'enfant a terminé le complexe d'Œdipe et qu'il a une confiance totale. Il a compris quelle est la place de son papa et de sa maman dans son cœur et dans sa vie. Et là, il est à votre écoute. Mais si lorsque lui, il est à votre écoute, vous écoutez d'autres choses, vous êtes plus occupé avec vos... on n'est pas en train d'accuser les gens. On est plus occupé avec nos loisirs, avec ce qu'on aime faire. On n'a pas su donner le temps à nos enfants. Comprenez que dépasser l'âge de 14 ans, Ali ibn Abi Talib dit, de 14 ans à Ilam Abad, jusqu'à après, cet enfant, on n'appelle plus l'enfant, cette personne est votre ami et votre soutien. 14 ans, c'est quoi? C'est l'adolescence, c'est la puberté. Quand un enfant a 15 ans, c'est fini. On ne lui fait plus de remontrance. Quand un enfant a 15 ans, il a besoin de se distinguer. Il veut avoir son propre choix, sa conception de la vie. Et au contraire, si vous dites mon bêta ou autre, va à droite, il va aller à gauche volontairement. Parce qu'il a besoin de s'affirmer. Il dit, au nom de quoi, lui? Le vieux, le bakoko, comme on l'appelle. Il vient nous voir après 14 ans. Là, il vient dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Jusqu'à l'âge de 14 ans, c'était où mes repères? Il était où ce papa? Il était où cette maman? Cette maman qui était au travail sans accuser, elle retournait à 18h comme papa, et moi je mangeais le sandwich à l'école, je retourne le soir, on mange chacun de son coin, le repas familial, mes chers frères, on a dit l'écoute, le repas familial, ça doit être un moment important, exceptionnel de la journée, où la famille peut communiquer, où le père et la mère donnent du temps lorsque tout le monde est ensemble à table. Troisième étape, Dieu de l'ambiance islamique, le B.A., c'est la pratique. Et là, ça blesse, comme on dit. Là, ça fait mal. Parce que là, ça fait mal parce que tout ce que je vais inculquer à mes enfants comme akhlaq, si moi, papa, je ne montre pas l'exemple, ça ne sert strictement à rien. Et au contraire, il va se dire que ce sont là des discours d'hypocrites. Si je dis à mon enfant, faut pas fumer, tralali, tralala, et moi je fume, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un exemple accessible. Mais pareil pour le comportement. Si j'enseigne à mon enfant le bon comportement, et que mon fils me voit insulter ou parler de manière hautain ou irrespectueux avec d'autres personnes, c'est quoi? C'est contre-éducation. On casse notre discours, hein, et on grille la relation de confiance entre l'enfant et le papa. Ensuite, tout ce que vous allez lui dire, va dire que lui, c'est un pantin. Il dit ce qu'il ne fait pas, la relation de confiance sera brisée. Donc, le discours, l'écoute et la pratique de la part des parents. Ça, c'est la première étape, l'enfance. Va très vite. La deuxième étape, l'étape de l'adolescence, lorsque ce jeune a 18, 19, 20 ans, le choix d'une épouse ou d'un époux vertueux, vertueuse. Ça, c'est extrêmement important. Et là, ça nous ramène vers la première étape. Si le prétendant ou la personne élue a elle-même ou lui-même reçu une bonne éducation, ce sera un musulman pieux. Et il n'y aura aucun problème à ce que mon fils, ma fille se marie avec cette personne. Et la troisième étape, on accélère, c'est quand ce jeune couple, mariés maintenant, deviendront eux-mêmes, ce jeune couple deviendra eux-mêmes parents. L'éducation qu'ils vont donner à cette prochaine génération de musulmans. Et là, nous revenons à l'étape 1 et à l'étape 2. C'est-à-dire que tout ça, ça se complète. Et à la base, ça revient à l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des parents sur l'impact des valeurs qu'on va transmettre à notre enfant de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Et c'est pas juste qu'on parle d'éducation, c'est pas les bonnes manières, hein. Le tarbiya islamiya, l'éducation islamique, c'est pas juste comment se tenir à table, dire merci, dire s'il vous plaît. Non, ça c'est une phase du akhlaq, du comportement du musulman. Lorsqu'on parle du tarbiya islamiya, l'éducation islamique, c'est pas non plus, comme on a dit, l'éduquer à coups de bâton. Pour qu'il mette en pratique. S'il ne s'est pas levé pour Fajr, on le fera pour qu'il fasse namaz. Si ma fille est sortie son châle, est sortie, pardon, sans châle, hein, je vais la réprimander, la punir, sans qu'il y ait l'écoute ni le discours pour expliquer, oh mon fils, pourquoi tu pries? Oh ma fille, pourquoi tu dois couvrir tes cheveux? Ça, c'est pas le bi'a islamia, ça, c'est pas la tarbiya islamia. La tarbiya islamia, l'éducation islamique correcte, en deux mots, c'est inculquer, ancrer l'amour d'Allah, la notion de présence d'Allah dans le cœur de cet enfant, la confiance en Allah. Que mon fils, dès l'âge de 5 ans, 6 ans, il a déjà confiance en Allah. Chose que nous, parfois adultes, on n'a pas. L'espoir et la crainte en Allah. Et ça, ça se résume dans le hadith de lequel le prophète alayhi salatu wasalam a dit à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui était auprès de lui, Ibn Abbas était un enfant. Il dit, oh petit, je t'enseigne des paroles, retiens-les. Ihfadillaha yahfaduk. On dit en français, respecte les ordres d'Allah et Allah Azza wa Jal te protégera. Ça, c'est une phrase et une phase clé. L'enfant, il va comprendre quelle est la relation entre l'obéissance envers Allah et le résultat direct de sa vie. Il va réaliser que si j'obéis à Allah, Allah va me protéger. Il a la réponse là. Pourquoi il fait namaz? Pourquoi il ne mange pas dans le carême? Pourquoi il faut couvrir la tête? Pourquoi il met chat, etc. Tu respectes les ordres d'Allah, Allah va t'aider dans toutes les étapes de ta vie, Allah va te protéger. Déjà pour lui, c'est cohérent. Respecte les ordres d'Allah et Allah sera avec toi. L'enfant, il comprend. Je respecte les ordres d'Allah, Allah m'accorde la réussite. Quand tu demandes, demande Allah. L'enfant réalise que mon cœur doit toujours être avec Allah. Faire en sorte que la présence d'Allah va s'ancrer dans le cœur de cet enfant. Et le hadith est long. Que, connais ton Seigneur dans les moments de difficulté, Allah Ta'ala te viendra en aide dans les moments de facilité. Non, non, le contraire. Connais ton Seigneur dans les moments de facilité, Allah Ta'ala te viendra en aide dans les moments de difficulté. Il va comprendre que ma relation avec Allah n'est pas saisonnière, n'est pas périodique. C'est pas le 27e, le 15e Sha'ban et le Ramadan qu'on met la panoplie, on vient à la masjid, on se met à fond et après c'est fini. Non, comprendre que ma relation avec Allah, c'est une relation permanente. Et le hadith est encore long, il y a tellement de leçons à retenir, mais on peut pas. C'est pas possible. Ce qu'on doit retenir, c'est que ces quelques paroles que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Ibn al-Abbas, ce sont des paroles d'une grande simplicité. C'est pas un discours philosophique, c'est pas des grands hadiths avec des choses compliquées, complexes, comme nous on aime parfois, on aime les histoires extraordinaires, le monde qui a marché sur l'eau, qui fait son namaz dans l'air. Là, wallah, faire comprendre à mon enfant que Allah est au-dessus de toi. Allah t'observe du matin jusqu'au soir. Le résultat, c'est quoi? Si ces valeurs-là ont été inculquées correctement, le aqidah sahiha a été inculqué volontairement, correctement dans le cœur de l'enfant, ces valeurs-là restent. Ces valeurs-là vont perdurer à toutes les étapes de la vie de cet enfant. Je l'envoie à 20 ans en métropole pour sa maîtrise de je ne sais pas quelle matière, il n'y a aucune surveillance, ni molissab, ni masjid, ni parents. Il ne tombera pas de le haram. Contrairement à ce qu'on voit beaucoup, malheureusement, quand nos enfants ils vont en France, en Angleterre, New York, peu importe les endroits, on a certainement donné l'éducation. On les a envoyés à la madrasa. Il y en a même qui ont été hafiz al-Qur'an. Arrivé là-bas, c'est fini. C'est comme le lion qu'on lâche dans l'arène. C'est fini, il n'y a plus de molissab, il n'y a plus de parawala, il n'y a plus de parents. Et c'est la fiesta. C'est quoi le problème? Il n'y a pas besoin d'aller en France. Hafid al-Quran au loft. Hafid al-Quran à la Villa Saint-Gilles, avec photo sur Facebook, venez voir les murs samedi soir. Hafid al-Quran qui boit, jusqu'à en vomir. Il y a un problème là, oui ou non? Nous, on a inversé la tarbiya. Pour nous, on n'a pas construit les binas, les fondations. Les fondations, c'est ce qu'on vient de citer. On a construit les étages, on a mis de belles couleurs, on a mis le zina, l'ornement. On a cru bien faire en confiant notre enfant Moulissam en se disant il en fera un hafid al-Qur'an. Mes chers frères, ça veut dire quoi hafid al-Qur'an? Le hafid al-Qur'an, c'est je suis hafid al-Qur'an. Je protège le Qur'an. Je l'ai mémorisé, il est dans mon cœur. C'est pas que le Qur'an me protège, là wallah. On a compris l'inverse. Le Qur'an ne fait pas d'un homme un bon musulman. Qu'on comprenne bien, dans notre compréhension à nous. Quelqu'un qui ne fait que mémoriser et lire avec une belle voix, il ne sera pas un bon mu'min. Au contraire, il a tellement de choses dans son cœur qu'il ne sait même pas, il ne comprendra pas la valeur de ces choses. C'est pour ça qu'on a un résultat parfois d'échec dans notre système, je dis pas dans le système éducatif, dans nos relations parents et enfants. C'est qu'on a oublié que l'éducation, c'est pas la madrasa. L'éducation, c'est à la maison. L'éducation, c'est je parle. L'éducation, c'est j'écoute. L'éducation, c'est je donne l'exemple à mes enfants pour en faire un homme, un musulman, une musulmane qui un jour sera quelqu'un de bien qui fera les bons choix dans sa vie. Je pense qu'on va s'arrêter à là, Inch'Allah, en attendant le temps fait de comprendre ces quelques paroles. Et puis, constat d'échec, il n'y a jamais eu autant d'alim en 2012, autant d'alim francophones. Il n'y a jamais eu autant de discours. Les discours, on les fait. les mimbas, les petits discours, on les met sur internet, ils téléchargent, les gens écoutent. Il n'y a jamais eu autant. Mais il n'y a jamais eu autant de délinquance dans notre communauté. Il n'y a jamais eu autant de jeunes musulmans qui boivent, qui picolent. Il n'y a jamais eu autant de musulmines, de musulmans dans les boîtes. Il n'y a jamais eu autant de jeunes filles musulmanes qui ont recours à une infirmière pour une AVG, pour une interruption volontaire de grossesse. Ça veut dire qu'il y a un réel problème. Le problème, ce n'est pas les institutions, mosquées, madrassas. Non, le problème, c'est le temps que j'ai donné à mes enfants. Ce temps-là, c'est de 6 ans à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. Et ça, c'est extrêmement important. Et le jour de la résurrection, on dépasse le temps, mais on rattrapera, Inch'Allah, notre prophète, alayhi salatu wa sallam, nous dira que Allah Azza wa Jal va appeler un père, il va dire que est-ce que je ne t'ai pas donné une épouse, est-ce que je ne t'ai pas donné des enfants. Demandez à la personne, qu'as-tu fait de ce cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous demande une chose, de protéger nos enfants. On a compris aujourd'hui qu'il faut les protéger, mais on les protège contre quoi? Du chômage. On les protège contre l'échec scolaire. On les protège contre les maladies, etc. etc. Allah Azza wa Jal demande, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. De protéger notre femme et nos enfants contre le châtiment du feu de l'enfer. Alors quand on dit ça aux gens, on dit que oui, essaye de faire comprendre à ton épouse qu'une femme musulmane, lorsqu'elle sort, elle ne peut pas laisser ses cheveux dehors. Lorsque ta fille elle va à l'école, il faut qu'elle ait une tenue pudique. Dis, ben Moussa Blaï dit la même chose depuis 50 ans. Même discours. Ok, c'est notre travail. Ma alayka illal bala. On le dit une fois et puis, les hommes sont libres de leur choix. Mais le choix des comptes, c'est une autre histoire. Avec Allah, on ne va pas dire que tout le temps les mêmes histoires. Allah, na'oud billah. Wahyullah. Les ordres et les recommandations d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est dans mes mains à moi, papa, et dans les mains de mon épouse en tant que maman. Allah donne tawfiq, mes chers frères, de comprendre encore une fois. Et on avait fait un rassemblement de jeunes il y a 10 jours à peu près à la mairie de Sani. On avait à peu près 400-450 jeunes. Et brièvement, je vous dis les grands résultats. Les grands résultats, hein, les pulsions, l'attirance pour le sexe opposé, c'est plus à 15-16 ans. C'est un constat, je dis, un peu choquant pour moi à mon niveau. À 12-13 ans, il y a les pulsions. À 12-13 ans, il y a déjà l'attirance pour le sexe opposé. La raison, c'est quoi? Par rapport à ce qu'on voit, accès Internet. Tout ce que l'enfant voit dès l'âge de 9 ans, 10 ans, et tout ce que l'enfant entend par le biais des chansons, des clips où il y a le culte du corps, le culte du corps de la femme, et là, on désacralise le zina. Le zina est devenu quelque chose de courant à travers ce qu'on entend, à travers ce qu'on voit. Gros problème que les jeunes, ils ont parlé, la cigarette, c'est le collège, CM2, la cigarette, également la chicha qui se fume en famille. Si on considère la cigarette comme makrouh, on considérerait la chicha comme étant haram, parce que c'est beaucoup plus nocif, et beaucoup de questions, mes chers frères, sur le mariage, beaucoup de questions sur le nikah. Ça prouve que les jeunes, ils ont le iman de leur cœur. Ils sont opposés à des parents qui disent, qui fixent la barre trop haut. Ils disent que tant que tu n'as pas ton diplôme, tant que tu n'as pas un appartement, tant que tu n'as pas tes revenus, tu ne te maries pas. Et quelle prise de conscience on a par rapport au zina. Mon fils, je préfère le laisser dans le zina, mais qu'il n'y ait pas d'engagement. Donc il faut que les parents réfléchissent. Le mode de vie en 2012 n'est plus le même qu'avant. Le zina est à la porte et à la portée de tout le monde. C'est mon travail à moi, papa et maman, de faciliter le nikah. Et là, ça passe par le biais du dialogue avec nos enfants. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillah.